Midi 30, 13h.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée. À la une, poignée de main tendue et mine un peu crispée ce matin à l'Élysée entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Mais les deux chefs d'État ont voulu jouer l'apaisement après le tweet du président américain sur les propos insultants d'Emmanuel Macron. Nous serons à l'Élysée dès le début de ce journal. L'autre image forte à venir pour ces commémorations du 11 novembre, Emmanuel Macron et Angela Merkel, ce sera dans la clairière de Rotonde cet après-midi, la même où fut signé l'armistice il y a 100 ans. Toujours dans le journal de la mi-journée, la marche blanche à Marseille en hommage aux 8 victimes des immeubles effondrés du quartier de Noailles. Nous y reviendrons longuement dans tout terrain à 13h avec la correspondante d'Europe 1 à Marseille et des témoignages très forts des habitants en proie à la psychose. La Californie touchée par de violents incendies, déjà 9 morts et plus de 250 000 personnes évacuées. Le journal des sports et François Gabart qui fait la course en tête dans la route du Rhum avec 200 km d'avance sur Francis Joyeux. Le salon Made in France qui ouvre ses portes à Paris. Nous serons avec un pionnier, le patron de l'entreprise Bioseptil qui fabrique une brosse à dents 100% française. Enfin, la météo et c'est la pluie pour tout le monde aujourd'hui.
Europe 1.
Une heure et demie maintenant que Donald Trump est arrivé à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron et on se demandait quel accueil allait lui réserver le président français après le tweet particulièrement virulent du président américain hier soir. À peine posé à Orly, Donald Trump dénonçait sur les réseaux sociaux les propos insultants d'Emmanuel Macron, je cite, sur la création d'une armée européenne, référence directe à l'interview du chef de l'État sur Europe 1 mardi matin. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez assisté à l'arrivée de Donald Trump et si on doit résumé cette opération déminage, mais avec des mines crispées.
Ah oui, Donald Trump est arrivé à l'Élysée il y a une heure et demie sous une pluie fine, dans sa limousine blindée, accueillie par Emmanuel Macron, une poignée de main assez froide sur le perron de l'Élysée, après le tweet hier soir du président américain. On a connu plus chaleureux entre les deux présidents qui ont évoqué chacun leur tour leur amitié devant les caméras à l'intérieur du palais. Nous sommes devenus des amis et nous avons beaucoup en commun, a rappelé Donald Trump. Le président américain, assez renfrogné ce matin, a évoqué un partage équitable du financement de la défense européenne.
On veut aider l'Europe. Mais il faut que ce soit juste. En ce moment, la charge repose principalement sur les États-Unis. Et notre pays ne peut pas tout faire. Nous sommes en train de reconstruire complètement notre armée. Mais les autres pays doivent aussi aider, ce n'est que justice. Le président et moi, nous sommes complètement d'accord sur ce point.
Après le tweet d'hier soir, l'Élysée parlait de confusion, des propos mal interprétés pour tenter de déminer les tensions. Et Emmanuel Macron d'afficher ce matin une volonté commune d'apaisement.
Nous travaillons ensemble de manière étroite au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs, mais il est injuste que la sécurité de l'Europe aujourd'hui dépende des États-Unis. Il faut mieux répartir le financement de la défense. Je pense que nous avons besoin de plus de moyens européens pour notre défense.
L'entretien a ensuite duré un peu moins d'une heure entre les deux présidents. Ils devaient aborder notamment les questions de sécurité liées à la Syrie et à la Libye, ainsi que les taxes douanières que Washington a décidé d'imposer à l'Europe.
Et donc là, Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent en ce moment à l'Élysée.
Voilà, un déjeuner avec les premières dames, Brigitte Macron, robe bleue, et Mélania Trump, qui est arrivée il y a un quart d'heure à l'Élysée, tout en noir et chignon impeccable. Donald Trump garde ensuite un agenda personnel. Il est attendu cet après-midi dans l'Aisne, au cimetière américain de Boisbello.
Jean-Gabriel Bourgeois en direct de l'Élysée pour Europe 1. L'autre temps fort de la journée de ces commémorations du 11 novembre, ce sera sans conteste la rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ce sera cet après-midi dans la clairière de Rotonde, la même où fut signé l'armistice il y a 100 ans, une rencontre qui n'est pas sans rappeler celle du chancelier allemand Helmut Kohl et du président Mitterrand Virginie Riva.
1984, Helmut Kohl et François Mitterrand se tiennent la main à l'ossuaire de Douaumont, près de Verdun. C'est le geste historique qui symbolise avec force l'amitié franco-allemande. Ce couple moteur d'une construction européenne, pensée comme seul rempart possible face à la guerre qui a opposé deux fois en un siècle les deux puissances. 34 ans plus tard, pour les festivités du centenaire de la Première Guerre, Emmanuel Macron, lui, a choisi un autre lieu de mémoire, la clairière de l'armistice de Rotonde, aménagée en mémorial en 1922, détruite par les Allemands en 1940, reconstruite ensuite par les Français. Autre lieu, autre intensité aussi du couple franco-allemand. Emmanuel Macron veut incarner le progressisme face à la montée des populismes, mais il n'a pas de chance, nous confie un ancien commissaire européen, ajoutant qu'il n'a pas de partenaire allemand, car Angela Merkel est au plus bas. Un membre du gouvernement confiait même cette semaine avoir de l'inquiétude vis-à-vis d'un partenaire qui devient incapable de trancher sur l'avenir de l'Europe.
Virginie Riva, et demain, suite de ces commémorations du 11 novembre, que vous pourrez vivre sur Europe 1 avec une édition spéciale à partir de 10h. Édition spéciale présentée par Wendy Bouchard. Alors toute la semaine, le président Macron est allé à la rencontre des Français à travers les étapes de son parcours sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Rencontre qui a souvent viré à la confrontation avec le chef de l'État interpellé sur la hausse du prix des carburants. Et ce matin, sur Europe 1, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a une nouvelle fois justifié la politique gouvernementale.
Il faut tenir le cap parce que nous devons combattre le réchauffement climatique, car l'enjeu, c'est la survie de l'humanité. Eh bien, nous le faisons, nous ne faisons pas évidemment que des taxes. Ça, ce serait parfaitement ridicule, mais il convient aussi de faire des taxes pour précisément financer ensuite l'isolation thermique d'un certain nombre de maisons, le renouvellement du parc automobile. C'est une transition, c'est un mouvement qui est lancé et nous devons tenir bon là-dessus. Et il faut aussi que nos industriels de la voiture s'y mettent.
Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui était l'invité de Patrick Cohen ce matin dans C'est arrivé cette semaine. Au chapitre judiciaire, les quatre sympathisants de l'ultra-droite soupçonnés de préparer une attaque contre Emmanuel Macron sont actuellement présentés à un juge à Paris. Le parquet a demandé que ces quatre hommes arrêtés mardi en Moselle soient incarcérés.
Europe 1.
À suivre, la marche blanche en hommage aux victimes des deux immeubles effondrés à Marseille. Ce sera cet après-midi à 15h.
12h38, la suite du journal, Fabienne Lemoelle.
Les habitants du quartier de Noailles à Marseille ne décolèrent pas. Déjà 8 corps retrouvés sous les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés rue d'Aubagne lundi matin. 5 hommes et 3 femmes auxquels la population va rendre hommage cet après-midi lors d'une marche blanche. Afida, qui habite le quartier, sera dans le cortège.
C'est le recueillement, parce que c'est des gens qu'on connaissait et ça c'est très dur de les avoir perdus. Là il y a des familles qui viennent tous les jours, ça pleure. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rage, surtout c'est de la rage que j'ai, parce que ça fait des années qu'on crie à l'alerte et personne ne nous a écoutés. Bien sûr, parce que on habite à Noailles, le cœur de Noailles, c'est la misère, le lieu caché de la misère.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, si vous pouviez dire quelque chose à l'occasion de cette marche blanche?
Les personnes responsables, qu'elles assument, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des familles déchirées, il y a eu des pleurs, c'est difficile. Parce que là, ça fait quand même 4 jours que j'arrive pas à exploser, mais... Oui, la tristesse est liée, la colère est liée depuis qu'on est né. On est comme dans des ghettos. On a des appartements, ils sont minables. On paye des loyers chers, on paye des taxes d'habitation, parce que ça, c'est oublié. On est des gens honnêtes. Et à la fin du parcours, on retrouve des morts à la fin.
Afida au micro de Nathalie Chevance. Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille, que nous retrouverons après 13h dans Tout Terrain pour essayer de comprendre comment on a pu laisser des habitants dans des logements aussi insalubres. Direction maintenant la Californie, toujours en proie à de violents incendies. Déjà 9 morts dans la région de Los Angeles. Et Théo Manval, les évacuations sont toujours en cours.
Ouais, plus de 250 000 personnes évacuées, des centaines de maisons détruites. La ville de Paradise, au nord de San Francisco, a presque été entièrement réduite en cendres. Et c'est là que le bilan est particulièrement lourd. Vous le disiez, 9 personnes sont mortes, a annoncé cette nuit le shérif de la zone.
Ces personnes ont été retrouvées dans leur voiture et même dans leur maison pour l'une d'entre elles. Nous allons continuer à actualiser ce bilan. J'espère qu'il ne va pas s'alourdir, mais je crois qu'il faut s'y préparer.
35 personnes restent en effet disparues. Les images de familles évacuant leur maison font froid dans le dos. Cette habitante dit ses prières alors que son mari conduit en pleine nuit sur une route cernée par les flammes et la fumée. Alors le vent s'est calmé hier soir, ce qui fait espérer une journée de progrès au chef des pompiers de Los Angeles.
On va en profiter pour faire tourner les équipes parce que certains travaillent depuis 2 jours sans repos. Mais le vent va reprendre dimanche, donc on n'a pas le temps de souffler. On fait tout ce qu'on peut pour sauver des vies et préserver la région.
Plus de 2000 pompiers restent mobilisés, également tout près de Los Angeles, à Malibu. Dans un tweet ce matin, Donald Trump a lui mis en cause le service des forêts accusé de mal travailler pour empêcher ces incendies. Les pompiers préfèrent souligner que la Californie connaît en ce moment sa 7e année de sécheresse consécutive.
Théo Manval.
Le journal des sports.
Avec Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On commence avec du rugby et le retour du 15 de France. Ce soir au Stade de France, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud.
Un gros test effectivement pour l'équipe de Jacques Brunel. À moins d'un an de la Coupe du Monde, les Bleus se cherchent toujours. 9 défaites accumulées lors de leurs 12 derniers matchs et des Français qui n'ont plus gagné depuis 9 ans face aux mythiques Springboks. Cette équipe de France n'a donc aucune certitude, mais au moins il y a une bonne ambiance de travail, Axel May.
Oui, durant leur stage de préparation à Marcoussis, les Bleus ont affiché une bonne humeur communicative tout en ayant conscience que le groupe est en reconstruction. Le deuxième ligne, Johan Maestri, a connu les années de crise sous Saint-André, sous Novès et ce soir, Brunel l'alignera contre l'Afrique du Sud.
Il n'y a que ça qui paye, c'est la gagne. Je sais si c'est difficile, surtout en équipe de France depuis quelques temps, donc à nous d'enrayer un peu ça et de se montrer positif.
Depuis l'arrivée de Jacques Brunel cette année, les Bleus ont réalisé un encourageant tournoi des Six Nations avant d'enchaîner en juin avec 3 sévères défaites contre les Néo-Zélandais. Jacques Brunel, qui est encore en train de tester différents joueurs, il n'a toujours pas pu aligner sa charnière centrale numéro 1 avec Camille Lopez à l'ouverture et Morgan Parra à la mêlée. Cette fois, c'est Parra qui est blessé à ce poste clé, un peu comme si les Bleus du football avaient préparé la Coupe du Monde sans arriver à faire jouer ensemble Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.
France-Afrique du Sud, coup d'envoi 21h05 à suivre évidemment sur Europe 1 avec Simon Rubin et notre consultant Eric Blanc.
Du ballon, on va aller au ballon rond football avec la 13e journée de Ligue 1 et Lille freinée par Strasbourg.
0-0 hier soir, des Lillois qui sont tombés face à une équipe alsacienne ultra défensive. Au programme aujourd'hui, dès 17h, le dernier Guingamp qui affronte Lyon. L'entraîneur Jocelyn Gourvennec ne sera pas sur le banc breton puisqu'il prend ses fonctions lundi. À 20h, le multiplex européen. Toulouse-Amiens, Angers face à Montpellier, Nîmes contre Nice. C'est un choc qui plaira aux nostalgiques. Saint-Etienne face à Reims.
Et puis la voile avec la route du Rhum et la Guadeloupe qui se rapprochent pour les deux leaders.
François Gabart est toujours en tête, mais voilà, il se trouve à moins de 1500 km des côtes guadeloupéennes. Le skipper de 35 ans étalonné par Francis Joyon, un peu plus rapide actuellement, et qui se trouve à moins de 200 km environ derrière Gabart. Il faut dire que la nuit n'a pas été simple, avec de la pluie, des vents changeants. Comme l'explique François Gabart, joint sur son multicoque, attention, il faut prêter l'oreille, hein, la qualité sonore n'est pas optimale. On rappelle que c'est une liaison satellite.
Ça va pas mal, c'est d'abuser surtout assez au sol en fait. Il y a des petits grains, au début de nuit, il y a des petits grains, il pleuvait, avec des gros changements de force des vents et de direction. C'est pas forcément comme la vie qui l'attend, surtout la nuit, mais je considère que je suis à fond de ce que je peux faire, je ne laisse rien insulter si je suis à fond. Voilà.
François Gabart nous explique que tout va bien. Il y a des petits grains, des gros changements de force de vent et de direction. Ce n'est pas simple de naviguer, surtout la nuit, en raison de la météo. Mais je suis à fond. Alors sachez que le jour vient de se lever là où il se trouve, sur l'océan Atlantique. Et puis dernière information que vient de me donner il y a quelques minutes Corinne Boulou, notre envoyée spéciale à Pointe-à-Pitre. François Gabart devrait arriver demain dans l'après-midi en heure locale, soit en début de soirée pour nous en métropole.
Et justement, on retrouvera Corinne Boulou dans Tout Terrain, juste avant 14h. On fera un point très complet avec elle, justement, sur l'état de la course et la casse qui a eu lieu effectivement toute cette semaine. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Il nous reste à voir le temps de ce samedi et aucune région n'échappera aux averses, Valérie Darmon.
Et oui Fabienne, à un moment ou à un autre, on est dans l'obligation de sortir son parapluie parce que tout simplement une perturbation bien pluvieuse traverse notre pays à l'heure où nous nous parlons et pour l'après-midi, la Bretagne, le littoral de la Manche jusqu'en Pays Nantais vivent quelques éclaircies, ce qui n'est pas exclu non plus en région parisienne cet après-midi, entre les averses évidemment et sur les reliefs de l'Est jusqu'en Rhône-Alpes en attendant l'arrivée de la pluie ce soir. Sous les parapluies, en revanche, toutes les régions entre le sud-ouest et l'Alsace. Demain, un front pluvieux va onduler sur les régions allant de la Charente et de la Gironde aux Hauts-de-France. En région parisienne, le vent va continuer de souffler sous des pluies intermittentes. Au sud, ce sera l'amélioration et les températures sont douces pour la saison. Aujourd'hui, 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Demain, 5 à 6 degrés au-dessus des normales.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, le salon Made in France qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris pour 3 jours. On en parle avec mon invité, le patron de Bioceptile, entreprise pionnière du Made in France, avec une brosse à dents 100% française et qui s'exporte.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoelle sur Europe 1.
Heure 48, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Fabienne Lemoelle et votre invité de la semaine.
Le Made in France fait donc salon Porte de Versailles à Paris, 7e édition. Ça commence aujourd'hui, ça va durer 3 jours en partenariat avec Europe 1. Alors, est-ce que le Made in France fait vendre? Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce label? On va en parler justement avec mon invité. Il est un pionnier du Made in France car il a relancé une entreprise il y a 6 ans qui fabrique une brosse à dents 100% français, je l'ai sous les yeux, il y a même un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Bonjour Olivier Remoissonnet, PDG de Bioceptil. Pourquoi se lancer dans une telle aventure en 2012 alors que quand même, la brosse à dents, il n'y a pas plus concurrentiel comme secteur avec entre autres les Chinois?
Ah oui, c'est un des produits les plus concurrentiels. C'est un produit qui rentre dans la catégorie des biens de grande consommation. Et donc le pari, c'était de démontrer qu'on peut faire les choses autrement. Qu'on peut trouver des produits made in France aussi sur ce segment, des produits de choix et qui ont des valeurs bien au-delà aussi du made in France, c'est-à-dire les valeurs éco-citoyennes et environnementales.
Justement, ça veut dire quoi le made in France? Est-ce que ça veut juste dire, entre guillemets, c'est déjà pas mal, hein, fabriqué en France parce que ça veut dire la préservation des emplois? On va rappeler que l'entreprise, quand vous la reprenez, vous en êtes un salarié, qu'elle est en redressement judiciaire, ou ça va justement au-delà de ça maintenant?
Ça va au-delà de ça. Néanmoins, il y a un socle important pour qu'on n'ait pas le sentiment de tromper le consommateur. Le made in France, nous, on le porte avec la caution du label Origine France Garantie, qui dit que la caractéristique essentielle du produit doit être faite sur le territoire. Donc on ne peut pas avoir juste un produit qui est conditionné sur le territoire, tout simplement. Il doit être fabriqué, sa caractéristique essentielle, et que la valeur du produit doit être au minimum de 50% constatée sur le territoire. Nous, sur notre marque, on est entre 88 et 92% de transformation.
C'est-à-dire que la matière première est aussi créée en France.
Oui, parce qu'en fait, on a fait
France.
Le choix d'aller chercher des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Il y a assez de plastique sur la planète. On utilise des plastiques que l'on recycle. Et donc, ça leur confère une caractéristique made in France aussi, parce qu'ils auraient fini en enfouissement ou en incinération. Et donc, ces produits, eh bien, on leur redonne une nouvelle vie et on en fait des brosses à dents.
Et j'ai même vu que vous utilisez de la coquille Saint-Jacques. Alors voilà. J'avoue que ça m'a assez intrigué. Ça veut pas dire que ça se mange hein, quand même.
Non, ça veut dire que c'est la coquille surtout et non pas la noix. C'est important de le souligner parce qu'il y a surtout une notion de ne pas aller utiliser des filières qui sont déjà installées. Donc la coquille, elle, n'était pas utilisée. Et l'objectif, c'est d'aller toujours minimiser la ressource pétrole. On utilise des plastiques recyclés et quand on le peut, on fait des bioplastiques avec du liège ou des coquilles Saint-Jacques.
On voit bien que vous mettez l'accent au-delà du Made in France. C'est aussi d'être éco-responsable. Alors on peut vous dire, un peu comme le Made in France il y a 6 ans, c'était très à la mode, là aussi, c'est très à la mode, c'est ça? C'est plus vendeur, plus marketing ou il y a une vraie démarche qui va plus loin?
Il y a une notion marketing, mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les consommateurs, ils sont de plus en plus sensibles. Et le rôle des industriels comme moi, c'est d'être à l'initiative et de montrer qu'on peut faire les choses autrement.
Et consommateur, pour vous, c'est important parce que je crois, et c'est l'une des particularités aussi de votre entreprise, que c'est par Internet que vous avez trouvé tous vos premiers clients.
En fait, on a trouvé nos premiers clients quand j'ai repris l'entreprise avec mon associé Olivier Voisin. Nos premiers clients, on les a trouvés quand on a fait le premier salon du Made in France. Et des clients nous ont dit, mais votre marque Bioceptil, elle nous parle, il y a quelque chose qui est ancré en nous depuis quelques années et on ne la trouve plus. Et on s'est dit, mais voilà, si c'est pour repartir sur les réseaux classiques, on va être noyé dans la masse et on ne va pas pouvoir exprimer notre savoir-faire. On a décidé de monter notre premier site de vente en ligne avec la formule abonnement. Et on est en circuit court, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Et on a là, du coup la capacité d'écouter nos consommateurs. Et c'est ce qui nous a amené sur les circuits vertueux du bio, le recyclage, les produits en plastique recyclé et maintenant... la version où on recycle les brosses à dents qu'on a mis sur le marché.
Vous êtes à l'écoute de vos consommateurs, effectivement, et ce que vous proposez effectivement depuis peu, c'est de pouvoir renvoyer, je crois, c'est ça, sa brosse à dents pour que vous la recycliez.
Voilà. Un produit du quotidien, comme une brosse à dents, fait 16 grammes. C'est tout à fait anodin, sauf que décuplé par le nombre de consommateurs et la fréquence de remplacement de la brosse à dents, c'est plus de 5000 tonnes de plastique qui partent à la poubelle tous les ans. Et donc nous, on a pris l'initiative d'aller au-delà de ça. On peut ramener les brosses à dents sur notre site de vente en ligne par l'objet des enveloppes. Et dans les magasins bio, c'est notre tour de France en ce moment. On a lancé une opération qui s'appelle recycletabrossesadents.com avec une cartographie. On est un peu partout en France avec un véhicule électrique. Et du coup, les brosses à dents ramenées sont ensuite acheminés à l'entreprise et on les recycle, on les rebroie et on en refait d'autres produits.
Alors je rappelle, Olivier Moissonnet, que vous êtes PDG de Bioceptil, donc on l'a bien compris, cette brosse à dents 100% française. Est-ce que ça veut dire 100% français que ça coûte plus cher? C'est souvent ce qu'on dit.
Ça coûte plus cher à produire.
Oui.
C'est une évidence. Par contre, ça coûte pas plus cher sur le marché parce qu'on a une politique de rémunération de l'actionnariat qui est beaucoup plus modeste que les grands groupes face auxquels on a affaire. Et donc, nos produits, on les trouve entre 3,50 et 4,50 qui est la moyenne constatée des produits techniques. Et ça veut dire que pour un même prix, on a une brosse à dents made in France qui fait travailler de l'emploi, qui apporte de la valeur ajoutée sur le territoire et qui en plus donne une notion éco-citoyenne importante.
vous la vendez bien, on sent que c'est votre bébé, hein, parce que je le rappelle, bah oui. Vous avez repris cette entreprise hein, quand même, qui était pas loin de, de la faillite.
On fêtera le 6e anniversaire le 1er décembre, on était à 6 jours de la liquidation il y a 6 ans.
Voilà, alors vous écoulez aujourd'hui plus de 8 millions de brosses à dents par an, c'est 4% du marché, mais surtout ce que j'ai vu c'est que vous exportez.
Oui, alors on a lancé l'export il y a quelques
même
années.
Même en Chine ?
Notre premier réseau était de s'implanter en Chine.
Ça paraît incroyable.
Voilà, une petite ironie dans l'histoire. Oui. Et ça fait toujours, on accroche une petite médaille. On est content.
Oui, hein, voilà,
on est content de la démarche. Donc, on a un réseau qui est en Chine. On reste très modeste en Chine, mais néanmoins, on est présent. On est présent sur le Liban. On est présent sur l'Espagne, la Suisse et la Belgique. Et prochainement, on a signé un partenariat avec une distribution sur la Russie.
Pour terminer, c'est quoi le plus gros défi? En un mot.
Le plus gros défi, c'est de continuer à se faire plaisir, parce que faire de l'industrie autrement, c'est surtout pas faire que du marketing, d'être vrai dans tout ce que l'on fait. Si Bioceptil continue d'incarner ça et que les consommateurs s'en rendent compte, je pense qu'on aura fait un bon bout de chemin avec eux.
Merci beaucoup Olivier Romoissonnet. On a bien vu que vous vendez plus qu'une brosse à dents, effectivement. PDG de Bioceptil, entreprise pionnière, on l'a dit, du Made in France et qui marche. Et je rappelle que le salon Made in France, en partenariat avec Europe 1, c'est jusqu'à lundi soir, porte de Versailles à Paris.
Europe 1.
Vous le savez, nous prolongeons cette tranche d'information jusqu'à 14h avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On reviendra sur les commémorations du 11 novembre avec le périple d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Périple largement marqué, vous l'entendrez, par les interpellations des Français sur la hausse des carburants. Nous parlerons aussi harcèlement scolaire avec une toute nouvelle méthode dans les établissements pour désamorcer les conflits. Et puis nous verrons comment les écoliers de Provins ont adopté le port de l'uniforme depuis la rentrée de la Toussaint.
Et avant de se plonger dans notre émission Grand Reportage, eh bien, on fera un petit point sur l'actu, c'est dans un instant. Dans une minute, il sera 13h, l'info en bref, Fabienne Lemoyle.
Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent en ce moment à l'Élysée. C'était opération déminage ce matin après le tweet de Donald Trump hier soir à peine posé à Paris. Il a dénoncé les propos insultants pour les États-Unis, je cite, d'Emmanuel Macron sur la création d'une armée européenne. Mais dans les salons de l'Élysée ce matin, Emmanuel Macron a préféré saluer l'amitié entre les deux peuples avec tout de même des mines crispées. Autre temps fort attendu aujourd'hui pour les commémorations du 11 novembre, la rencontre cet après-midi entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ce sera dans la clairière de Retombe près de Compiègne. La marche blanche cet après-midi à Marseille pour rendre hommage aux victimes des deux immeubles effondrés dans le quartier de Noailles. À l'étranger, la Californie en proie à de très violents incendies, au moins 9 morts et au moins 250 000 personnes évacuées pour l'instant. Enfin, le temps de ce samedi, et c'est la pluie qui va dominer la plupart des régions avec des températures douces pour la saison, 2 à 3 degrés au-dessus des normales.
Merci Fabienne, vous restez avec nous puisqu'on revient sur les événements marquants de la semaine. Il est 13h. Bon samedi à l'écoute d'Europe 1.